RMC.
Je n'ai ni diplôme de médecin ni d'avocat. J'ai juste une licence de grande gueule.
10h, 13h.
Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond.
Olivier Truchot.
La finance, c'est du baratin, du bluff.
La poudre aux yeux.
Les grandes gueules.
Petit diable de peau parleur.
Les grandes gueules en direct jusqu'à 13h sur RMC. C'est la troisième partie à 12h45. Vous le savez, c'est les GG et vous. Vous pouvez interpeller directement les grandes gueules sur toutes les discussions, tous les propos qui ont été tenus depuis ce matin 10h. On a notamment parlé du retour possible de l'écotaxe, une version régionale de l'écotaxe voulue notamment par le député du Nord, Frédéric Cuvillier, parce qu'il en a marre de ces camions qui transitent via la Belgique, qui vont en Angleterre et qui polluent sa région. On pourra revenir aussi sur la fin peut-être des menus de substitution à Chalon-sur-Saône. La décision du tribunal administratif de Dijon est attendue d'ici quelques jours. En tout cas, l'audience avait lieu ce matin. Faut-il effectivement arrêter avec ces menus sans porc pour des raisons religieuses dans les cantines scolaires? Vous avez entendu le débat qui était assez animé. On peut le poursuivre tout à l'heure à 12h40, sans oublier, décidément c'est une journée avec ou sans porc, les industriels du porc qui, eux, refusent le prix fixé par le gouvernement. Mais pour l'heure, c'est le grand oral des GG.
RMC, le grand oral des grandes gueules.
Qui passe le grand oral des GG? C'est le député européen du Front National, Bruno Gollnisch. Bonjour.
Bonjour, monsieur Truchot.
Bienvenue sur RMC. On l'a bien compris, Jean-Marie Le Pen veut la peau de sa fille. Est-il en train de détruire ce qu'il avait mis 40 ans à construire?
Je crois que votre présentation est pour le moins condensée et excessive. Non, il voudrait simplement que les relations entre elle et lui soient apaisées. Voilà. Il veut pas du tout la peau de sa fille. Maintenant, je crois qu'il s'inquiète de justement qu'on veuille l'éliminer politiquement, alors qu'il avait été investi au Congrès qui avait élu Marine comme président d'honneur du Front National. Et je crois que sa présence n'a jamais porté atteinte à l'autorité de la présidente.
Non, mais quand il dit « je ne voterai pas Marine Le Pen en 2017 », c'est pas une entreprise de destruction massive.
Non, il n'a pas dit ça comme ça. Et d'ailleurs, ça, c'est le titre de vos confrères du JDD. Il a dit « si ça continue comme cela ». Je vois que Monsieur Maillot, d'ailleurs, a le texte du journal, on pourrait le lire. Et si ces procédés à mon encontre, etc., se poursuivent, à ce moment-là, je ne soutiendrai pas à soutenir, ça veut dire faire campagne, etc.
Et vous aussi?
Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'on trouve un apaisement qui me paraît assez facile à concevoir.
Alors justement, quelle est votre solution?
Bien écoutez, c'est d'acter, et Jean-Marie Le Pen en est d'accord, qu'en tant que président d'honneur, ses propos n'engagent plus le Front National. Ses propos l'engagent lui-même.
Quand on est président d'honneur d'un parti, forcément, quand on tient des propos, on engage le parti.
Non, président d'honneur, dans président d'honneur, il y a une notion honorifique, en quelque sorte. Mais il est d'accord pour que ce soit acté. Il n'y a qu'à acter cela de façon absolument solennelle.
Mais 94% des militants qui ont voté avec ce congrès postal du FN veulent l'éviction de Le Pen, il s'accroche, alors que même les militants ne veulent plus de lui. Ça vous fait sourire, mais c'est une réalité.
Non, ça me fait rire, parce que, encore une fois, vous avez un art du condensé.
Parce qu'il est journaliste.
Oui, je pense.
C'est ça.
C'est pas vrai.
C'est
un bon professionnel. Et de nous deux, c'est Monsieur Truchot qui est le plus provocateur.
Alors, c'est pas moi. Moi, je suis pas au Front National.
C'est le vice-président.
C'est Philippot qui dit, vice-président du FN, qui a organisé donc ce congrès postal du FN, et qui dit que 94% des militants veulent l'éviction de Le Pen.
Je vais vous répondre là-dessus. Bon, d'abord, ce congrès a été invalidé par la justice. Et moi, j'avais prévenu mes amis du Front National, y compris Marine Le Pen, y compris Florian Philippot, que ce qu'il faisait là était à la fois moralement désastreux, politiquement néfaste.
L'autre est énorme, quand même, ils ne connaissent pas le droit,
Monsieur Maillot, je vous laisse la responsabilité de vos propos.
L'assume.
Absolument, vous l'assumez très bien. Oui, et c'est vrai que moi, je ne suis que... je vais être un peu prétentieux, hein, je ne suis que premier prix de doctorat de droit de l'Université de Paris, et je leur avais annoncé 6 causes de nullité.
Oui, mais c'est la procédure qui est rejetée, c'est pas le résultat.
Mais la procédure entraîne le résultat. Et notamment, quand dans la procédure vous présentez comme des modernisations du Front National, une dizaine ou une douzaine de modifications des statuts au sein de laquelle il y a, c'est vrai, après la suppression de la fonction du président d'honneur et qu'on doit répondre en cochant une seule case, je ne crois pas que le résultat puisse être significatif. D'autant plus que ce qu'on vous garde bien de dire, c'est que ceux qui étaient hostiles à ce procédé ont appelé à ne pas y participer. Et c'est mon cas, par exemple. Moi, qui ne suis hostile à l'éviction de Jean-Marie Le Pen, je n'ai pas voté.
Donc,
Jean-Marie
Le Pen n'a pas voté. Donc il faut un vrai congrès. Il faut un vrai congrès physique.
Il y avait 87 000 adhérents au congrès de Lyon il y a 6 ou 7 mois. Alors on me dit, et je dont acte d'ailleurs, je ne le conteste pas, que le décompte entre l'année dernière et cette année n'est pas le même, parce selon qu'on tient compte
des adhérents. Il y a uniquement 51 000 adhérents
à jour. Non, non, mais on me dit, c'est ce que j'avais relevé, mais l'on me dit, et je veux tout à fait bien le croire, que le décompte n'est pas le même, parce que d'un côté, on tient compte
c'est
des adhérents.
C'est comme les chiffres du chômage, les électeurs au Front National.
Monsieur Maillot, laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre, parce que sinon, je vais vous expliquer.
Expliquez-nous.
Parce que je trouve, comme vous, monsieur Maillot, que il est étrange de convoquer, en tout état de cause, deux congrès à 7 mois de distance, l'un sur la base de 87 000 adhérents, l'autre sur la base de 50 000. Sur ces 50 000, il y en a la moitié qui a voté la réforme des statuts.
Donc, votre solution, c'est Le Pen, Jean-Marie, reste président d'honneur.
Oui.
Et ce qu'il raconte n'engage plus le Front National.
Oui.
D'accord.
Oui,
Monsieur Goldie, puisque vous êtes à la fois historien, etc., vous avez une vision.
Et député européen.
Globale. Moi, je vous pose la question suivante. Est-ce que vous trouvez pas que finalement ce qui se passe au Front National aujourd'hui, hors passion, est tout à fait normal? C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas simplement dans le fait que vous payez une organisation? Parce que moi, il y a une chose qui est très choquante dans le Front National. Moi, je suis opposé aux idées du Front National, mais pas seulement.
C'est votre droit.
Je trouve qu'il y a quelque chose de choquant. C'est cette espèce d'homogénéité de pensée des militants du Front National. C'est impressionnant quand on est sur Twitter que on a l'impression que le Front National s'est réduit aujourd'hui à des éléments de langage, comme on dit. C'est-à-dire que moi, quand je dis quelque chose et que des gens du Front National me contredisent assez violemment, les phrases qui émergent de ces gens-là sont toutes identiques et ont toutes été prononcées à un moment par Monsieur Philippot. Et je me demande si on est dans un parti, si cette création du Front National est totalement artificielle. Alors on pourra dire que le Parti Socialiste, il y a autant d'idées qu'il y a de socialistes, donc à la limite c'est compliqué à faire vivre. Oui. Est-ce qu'on n'est pas dans ce qu'était le PC en quelque sorte, avec le centralisme démocratique dans les années 70, où finalement c'était comme s'il y avait une réponse globale et où tout le monde pensait la même chose? Je ne peux pas penser que dans un parti comme le Front National, tous les militants aient la même pensée, qu'il n'y ait pas de diversité, et en tout cas personne s'oppose à la princesse, à la châtelaine. Et je trouve moi personnellement qu'un parti qui vit de cette manière-là ne peut pas vivre, et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement la rançon de ce positionnement du centralisme démocratique du Front National.
Je ne partage pas totalement vos opinions, comme vous pouvez vous en douter. Je crois que c'est les autres partis, c'est un peu pareil. Si vous interrogez les Républicains sur Sarkozy, vous aurez à peu près les mêmes réponses.
Bon, sur
les questions politiques, et pas seulement les communistes, mais je pense même au Parti Socialiste, en dépit des diverses
factions. Mais qui incarne la doctrine du Front National aujourd'hui?
C'est ça, alors, c'est un vrai problème. Selon moi, la doctrine du Front National, elle devrait être incarnée par le Congrès. C'est le Congrès qui définissait un programme du Front National. Bon, et ce programme du Front National, contrairement à ce que disaient nos adversaires, c'était un vrai programme extrêmement complet de remise en ordre de la société dans tous les domaines économiques, financiers, de sécurité.
J'ai une question à propos du programme, justement. Sur le plan économique, il y a eu un virage à 180 degrés.
Bah oui.
Jean-Marie Le Pen avait sur le plan de l'economie une ligne libérale plutôt.
Oui,
régalienne. Absolument.
Alors, c'est vrai, Monsieur Maillot. Mais il faut s'entendre sur ce qu'on appelle libéral.
Mais c'est pas
la suppression de l'impôt sur le revenu. Mais pour moi non plus. Mais Jean-Marie Le Pen avait un programme, et le programme auquel j'ai contribué d'ailleurs, de restauration des libertés économiques. Bon, mais nous ne sommes pas favorables au libre-échangisme, si j'ose dire, à l'échelle mondiale, parce que la liberté économique, la concurrence, elle doit être libre et non faussée. Et il est évident que la concurrence entre la France et le Bangladesh en matière textile, quand les ouvriers bengalis sont payés 30 euros par mois, eh bien l'industrie française ne peut pas évidemment supporter cette
mais
concurrence.
Mais est-ce que ce changement de ligne a été vraiment approuvé par l'ensemble des membres du Front National?
Non, il n'y a pas. C'est vrai.
C'est ça,
je vous le concède. Oui, il n'y a pas eu véritablement de débat de fond au cours de nos congrès.
Pourquoi? Mais en même temps, les électeurs valident.
Attendez. Le congrès de Tours était un congrès de succession de Jean-Marie Le Pen. Je le sais, parce que je me suis trouvé concurrent de Marine Le Pen à ce moment-là.
Jeune pour être le président.
Jean-Marie Le Pen appuyait la candidature de Marine. Bon. Le congrès de Lyon n'a pas eu de contenu doctrinal et je le regrette.
Oui, mais Bruno Jeunich, les histoires de congrès, très bien, ça intéresse Étienne Liebig, mais ce qui compte, c'est quand même l'élection. Or, depuis que Marine Le Pen est présidente du Front National, on peut pas dire qu'elle a essuyé beaucoup d'échecs, c'est plutôt elle vole de victoire en victoire, en tout cas de résultats spectaculaires aux européennes. Le Front National est arrivé en tête, ce qui n'avait jamais eu lieu auparavant. Elle a fait 18% à la présidentielle, ce que
Jean-Marie Le Pen a fait 33% et est arrivé en tête dans la région sud-est, dont je suis l'élu.
Tout va très bien. Le seul problème, moi j'ai l'impression quand même, c'est les propos de Jean-Marie Le Pen qui replonge le Front National dans ce qu'il a peut-être de plus obscur et de plus repoussoir, savoir les blagues antisémites, etc.
Il n'y a jamais eu de blagues antisémites de la part de Le Pen.
Le Pen a été condamné,
Alors écoutez, l'interview à Rivarol, parlons-en. Vous l'avez lu?
Mais bien sûr que je l'ai lu. J'ai pas acheté Rivarol, mais je l'ai lu.
Qu'est-ce qui vous choque dans l'interview de Rivarol?
Il dit toujours la même chose.
C'est pas pour ça qu'on va être pas
tout le monde en parle, bien peu de gens l'ont lu.
Aujourd'hui, est-ce que c'est pas le Front National nouvelle génération qui démontre qu'il a raison puisque ça marche en fait?
Non mais c'est ça. Est-ce que ce problème là c'est pas seulement et avant tout qu'un conflit de génération?
Oui, c'est des modernes et des anciens. Je crois pas parce qu'il y a des gens plus jeunes que Marine, par exemple, qui pense exactement comme je le pense.
Qui, parmi les élus, là, ceux qui qu'on voit, Steve Briouat, il pense comme Marine Le Pen, le maire de Fréjus aussi.
Je vois beaucoup de militants jeunes qui considéreraient comme tout à fait inacceptable qu'on rompe avec ce
sujet. Finalement, il y a un changement de génération.
Monsieur Truchot, laissez-moi, s'il vous plaît, vous répondre au lieu de placer à chaque fois une vanne. Laissez-moi vous répondre.
Pour Paris, ceux qui vont à la soupe.
C'est le tribunal révolutionnaire.
Mais non.
Ou alors, est-ce que j'ai le droit de donner mon point de vue?
Alors, expliquez-nous.
Il y a des gens jeunes qui pensent que de tuer en quelque sorte, sur le plan politique en tout cas, le symbole Jean-Marie Le Pen, qui est le symbole d'une résistance au discours du politiquement correct, qui a été le symbole, qui a été aussi l'acteur de la construction de ce mouvement national pendant des décennies, au milieu d'épreuves et de persécutions dont on n'a plus tellement idée aujourd'hui, ce serait tout à fait anormal et même scandaleux. Pour revenir sur les questions économiques dont parlait Monsieur Maillot, nous n'avons pas un programme collectiviste. Et là, voyez-vous, ça va vous surprendre, je défends en quelque sorte un petit peu Florian Philippot.
Il est étatiste.
Même si vous êtes, Monsieur Maillot, vous avez été un grand créateur d'entreprise, vous avez créé Nouvelles Frontières, etc. Bon, vous êtes partisan de la liberté d'entreprise, moi aussi.
Absolument.
Moi aussi. Mais est-ce qu'on peut...
Et je suis pour la concurrence à fond, je suis en désaccord avec vous là-dessus.
D'accord. Mais,
je suis à fond pour l'économie de marché.
Est-ce qu'on peut se satisfaire, par exemple, de la disparition d'entreprises françaises comme Pechiney, de la quasi-disparition d'Alstom, du fait que toutes les fois qu'une grande entreprise publique ou privée se trouve confrontée à ce libre-échangisme débridé dans lequel on laisse une concurrence avec des pays qui ne jouent pas selon nos règles, qui font travailler leurs ouvriers dans des conditions d'esclaves. Les ouvriers français sont censés travailler 35 heures, les Chinois ils dorment 35
Dunkerque, en ce moment, on n'emploie que des Roumains et des ouvriers étrangers sur un grand chantier dunkerquois. Ils sont payés 350 euros le mois.
Eh bien, je le déplore.
Et,
ben,
et ce sont des travailleurs des gens sans papier qui travaillent. Et ce que je veux dire, c'est que...
C'est tout à fait scandaleux.
Oui, c'est tout à fait scandaleux, mais c'est une réalité économique. Moi, ce qui m'énerve...
Mais c'est une réalité économique contre laquelle le Front National...
Ce qui m'énerve avec le Front National et un petit peu comme avec, on pourrait dire, en quelque sorte, certains partis de gauche, c'est qu'on est toujours en train de dire ce serait mieux, ce serait mieux, c'est horrible, c'est scandaleux ce qui se passe, on est contre, il faut sortir de l'Europe, c'est horrible.
Non, mais
non, laissez-moi terminer. Tout ça, c'est de la rhétorique inutile, parce que la réalité de la mondialisation, elle est là. On est devant des pays qui ont 1,5 milliard de personnes, on est devant des pays qui ont 1 milliard de personnes demain. Et vous êtes là, en train avec nos
et
petits 60 millions de personnes. Mais non, mais je parle comme Le Pen.
Avec
nos 60 millions de personnes, on est là à vouloir jouer les gros bras. Nous avons les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Mais putain, mais à un moment, il va falloir se dire, soyons pragmatiques, quelle est cette réalité du monde aujourd'hui?
Le pragmatisme, c'est envoyer des Roumains à 300 euros par mois.
Non, mais justement, et comment nous pouvons essayer, avec nos moyens, de nous en sortir, sans toujours sortir des grands anathèmes, extraordinairement, évidemment, on rêve tous, c'était mieux en 1950, monsieur Gollnisch, c'était mieux, mais c'est fini, c'est mort, et nous ne reviendrons pas en arrière, on ne sortira pas de l'Europe, on sera dans l'euro, et vous pourrez faire tout ce que vous voulez, et je dis, vous enfumez les pauvres gens qui ont des difficultés à s'en sortir, en leur disant, faites confiance au Front National, nous, on va revenir à la France des années 50, vous mentez, et c'est scandaleux.
Eh bien, écoutez, vous tenez sur Dunkerque un discours que le Front National, jusqu'à une date récente, était absolument, et encore aujourd'hui, est le seul à tenir.
Alors, c'est quoi la solution?
Mais quand nous disions ça, monsieur, on nous disait, mais c'est abominable, vous refusez l'Europe, vous êtes des racistes, vous ne voulez pas de travailleurs étrangers, vous ne voulez pas de travailleurs étrangers, vous êtes des racistes.
C'est quoi la solution?
Vous ne voulez pas de l'immigration, vous êtes d'abominable.
C'est quoi la solution?
D'abominable racisme.
C'est quoi la solution?
La solution, c'est la préférence nationale, et c'est de ne faire la construction On a fait la construction européenne parce qu'on a accepté qu'il y ait une libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes entre des pays qui, au départ, avaient à peu près les mêmes niveaux de protection sociale et les mêmes niveaux de développement industriel. Mmh. Et on garantissait à cette époque-là, à nos agriculteurs, des prix qui étaient supérieurs aux cours mondiaux.
Mais l'Allemagne s'en sort bien avec ce système.
On n'a jamais dit qu'on allait insérer cet ensemble.
C'est là où ça ne va pas, c'est que l'Allemagne s'en sort bien avec le même système. L'Allemagne est vraiment un pays qu'on peut comparer. L'Allemagne s'en sort bien et nous on s'en sort moins bien.
Mais parce
donc
que
arrêtons toujours de trouver des
boucs émissaires. La Belgique a des coûts salariaux similaires, elle s'en sort bien. Faut parler clair.
Parce que l'Allemagne exploite les travailleurs des pays de l'Est, bien évidemment. Bon, tout le monde sait ça.
Parce que l'Allemagne a fait des réformes structurelles que la France n'a jamais fait.
Parce qu'elle n'a pas le même niveau de protection sociale non plus, l'Allemagne.
Le chancelier Schröder.
Parce que la protection sociale.
Elle a fait des choix, c'est vrai.
Mais si, dans les allocations,
c'est vrai. Ce que vous dites est exact.
Pas traité de la même
ce
façon.
Ce que vous dites est exact. Parce
que nous voulons. Quand tu vas chez le médecin, tu payes en Allemagne.
Bien sûr.
Désolé. Hein.
Bien sûr.
Vous êtes député européen de effet, je ne sais combien de mandats.
Oui.
Mais qu'est-ce que vous obtenez au Parlement européen? Quelle est votre efficacité? Mais par exemple, l'harmonisation sociale, vous devriez vous battre là-dessus, obtenir quelque chose. Mais maintenant que vous avez un groupe, vous devriez être plus fort avec votre groupe.
Mais l'harmonisation sociale, monsieur Maillot, elle ne peut avoir lieu que dans des pays qui ont des situations sociales et économiques à peu près comparables.
Est-ce qu'il n'y a pas une initiative possible de trouver un compromis au niveau de l'Europe?
Oui, mais il aurait fallu éviter que la grenouille veuille se faire aussi grosse que le bœuf.
Allez, dans un instant, Bruno Gollnisch, on va parler de Monsieur Tsipras qui finalement trouve un accord avec les créanciers et vous avez soutenu plutôt la victoire de Syriza à l'époque. Et puis nous reviendrons également sur le problème des migrants. Selon Christian Estrosi, il y aurait des terroristes de Daesh parmi les migrants qui sont en ce moment en France. À tout de suite avec Bruno Gollnisch, le grand oral des GG sur RMC.
RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules. RMC, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Et c'est Bruno Gollnisch, le député européen du Front National, qui passe le grand oral des GG. Des questions d'actualité maintenant. Visiblement, la Grèce et ses créanciers ont trouvé un accord pour un nouveau plan d'aide sur 3 ans. Finalement, Alexis Tsipras fait comme ses prédécesseurs, la rigueur.
Oui, je crois qu'il a capitulé, d'une certaine façon, mais il était complètement étranglé. Il faut dire, ce pays est complètement étranglé, placé totalement sous tutelle. C'est une situation absolument effroyable, qui leur est imposée et qu'ils n'auraient pas connue s'ils avaient conservé leur monnaie nationale, la drachme. La drachme aurait dévalué une fois de plus, c'était pas la première fois, mais voilà, ils seraient pas dans cette situation où ils ne contrôlent plus rien, ils ne sont plus les maîtres du jeu. Ils sont tributaires d'une monnaie qui...
Mais il n'y a peut-être pas de plan B, en fait, c'est simplement ça. C'est qu'on a cru, enfin, vous avez cru avec d'autres qu'il y avait un plan B et que Tsipras incarnait que ça marchait pas.
Moi, je n'étais pas un agent électoral de Tsipras.
Marine Le Pen s'est réjouie de la victoire de Tsipras.
Oui,
parce que je peux vous sortir les dépêches.
Mais bien sûr. Ben, vous lui poserez,
c'est une erreur, en fait.
Non. Vous lui poserez la question. Non, parce que ça traduisait. Nous avons été sensibles au fait que même si M. Tsipras est de gauche, ça traduisait une espèce de sursaut national du peuple grec pour reprendre son destin en main. Mais il ne peut pas reprendre son destin en main dans le cadre actuel. Oui, c'est évident.
Vous nous avez dit, vous et d'autres, que la Grèce allait sortir de l'euro, que même l'euro allait exploser. Enfin, vous avez prévu le pire et finalement, ils arrivent à trouver un accord. Alors, rien n'est réglé. Mais c'est quand même pas le pire qui a eu lieu.
Non, mais monsieur Truchot, c'est pas parce qu'ils trouvent un accord que la situation du peuple grec va s'améliorer. Que je sache, elle s'est dégradée d'une façon absolument effroyable au cours de ces dernières années. Et moi, je peux vous dire, ce qui est quand même une véritable escroquerie dans ce système. Je suis allé plusieurs fois en Grèce avant l'adhésion de la Grèce à l'Union européenne, ou au début de l'adhésion de la Grèce à l'Union européenne. Partout, il y avait des chantiers, on bétonnait, là, on faisait une route, et à chaque fois, des grands panneaux avec l'emblème européen. Ici, l'Europe construit pour vous. Les Grecs ont cru que l'Europe, c'était le pays de cocagne. Bon, et je crois que maintenant, si vous les interrogez, vous verrez que la plupart des chantent. Et même ceux, d'ailleurs, qui n'ont pas voté non.
Ils ont tout fait pour rester dans... Ah, excusez-moi, là. Vous allez vous avancer un peu. Et d'ailleurs, on verra aussi en Angleterre, mais il n'est pas du tout évident que... Alors, on peut avoir des idées comme au Front National, c'est-à-dire tout vient de l'Europe, c'est de la faute de l'Europe, et ça fait plaisir. Je veux dire, on aime tellement notre pays, on est tellement persuadé qu'on est les meilleurs du monde, qu'effectivement, quand on nous dit tout ce qui nous arrive, c'est de la faute de l'Europe, et nous, les Français, avec nos 60 millions d'habitants, on est tellement puissants, il suffit de sortir de l'Europe, et demain, ce sera aussi bien qu'en 1960. Mais moi, je vous dis, au moment de mettre le bulletin dans l'urne, quand on te dit tu vas sortir de l'Europe, tu vas te retrouver comme un tout petit pays que tu es face à des géants monstrueux, tu vas arrêter de commercer avec tes camarades et tu vas retrouver ton franc. Bah, croyez-moi qu'on n'est plus aussi fringant. Et je vous rappelle qu'en Grèce, il y a eu des sondages très précis qui ont montré que si les Grecs avaient voté pour Tsipras et si les Grecs étaient pour réfléchir, ils n'étaient pas contre l'Europe et ne voulaient pas sortir de l'Europe.
Ils ont voté non au référendum sur l'acceptation des conditions qu'on leur imposait. Je crois que c'est leur erreur, précisément à partir du moment où ils acceptent de rester dans ce système, ils ne sont plus les maîtres de leur destin. Alors vous me dites que les gens veulent rester, etc. Bien sûr. Hein, si on leur dit tes économies restent dans une monnaie qui est encore d'accord. Mais comment font ? Vous dites on ne peut pas faire avec 60 millions d'habitants, on est tout petit face à un milliard. Mais comment font ? Comment fait la Suisse ?
Oui, c'est ça, les Suisses.
Comment fait
le coffre du monde ?
Comment fait la Norvège ? Comment font beaucoup d'autres pays
sur des grands exportateurs
nous n'avons pas.
Revenons aussi sur le problème de agricole dans le même sujet.
La Norvège 4 millions d'habitants, la Suisse 10 millions d'habitants.
On est un peu dans le même sujet. Aujourd'hui, vous nous dites que tous nos maux viennent de l'Europe.
Non, je ne dis pas ça.
Qu'est-ce que vous répondez ?
Nos maux viennent de nous-mêmes. Je suis d'accord.
Qu'est-ce qu'on met en place à l'Europe pour régler les problèmes de l'élevage ? Enfin, ce matin, il y a quand même aujourd'hui des accords signés par le ministre de l'Agriculture qui seront pas appliqués par les filières. Comment on régule les marchés à l'intérieur des filières ? Qu'est-ce qu'on fait des GMS ? Parce que aujourd'hui, c'est des sujets économiques sur lesquels on vous entend peu. Et j'aimerais savoir vos solutions et comment on... Qu'est-ce qu'on fait à l'Europe ? Parce que un député européen, quand j'en croise un,
le problème, c'est qu'on a inséré l'Union européenne qui était en principe... encore une fois, le commerce libre entre des États complémentaires, Bon, on l'a inséré de plein pied.
Ça, c'était quand on était ici.
Attendez. Oui, et même un peu après. Mais on l'a inséré dans le contexte mondial. Et pourquoi est-ce que d'ailleurs les industriels refusent les prix qui sont pratiqués? Parce qu'ils disent on peut trouver mieux ailleurs. Or, il fallait s'en tenir à ce système qui n'est pas un système libéral, là, pour le coup. J'en suis d'accord. Parce que moi, je considère que les prix agricoles, ils ne peuvent pas être soumis simplement à la loi de l'offre et de la demande. Et qu'il faut assurer un revenu décent à nos agriculteurs. C'est ça qui était prévu au départ. Et c'est ce pacte européen qui a été trahi par la suite. Et alors ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est aussi le fait, une des conséquences quand même de notre brillante politique, je dis ça ironiquement vis-à-vis de la Russie. Parce qu'on a décidé toutes sortes de sanctions économiques contre la Russie, et on a pensé que M. Poutine allait continuer à nous acheter nos produits agricoles, comme si de rien n'était. Un beau jour, M. Poutine a dit, bah, écoutez, hein, puisque vous boycottez nos produits, etc., bah, nous n'achetons plus les vôtres, et ce que nous vous achetions jusqu'à présent, on va le produire
oui,
chez nous.
D'accord, mais voilà, là, prenons concrètement la position des industriels du porc, là, les deux plus gros acheteurs de porc français, qui décident de ne pas acheter au prix fixé, qu'ils jugent artificiel par le gouvernement, puisqu'il est trop élevé, justement, en fonction de la concurrence, et qui n'est pas une concurrence russe, c'est une concurrence allemande et espagnole. Ils n'ont pas raison, finalement.
Il est tout à fait anormal qu'il n'y ait pas un prix du porc unique en Europe.
Un prix du porc unique.
Absolument.
Oui, mais alors,
et pour la plupart des pays,
non, mais c'est le prix du porc
c'est
français,
c'est le prix du porc.
C'est toujours pareil, c'est pas normal. Voilà. Seulement, il y a une réalité à gérer. C'est énervant.
Non, mais vous me
c'est
demandez,
énervant, on ne peut plus rien dire.
Monsieur, vous me demandez ce que moi, député d'opposition, je propose pour sortir de la situation. Je ne vais pas vous dire que la situation actuelle est merveilleuse. Et toutes les fois que je vous propose de changer de système, vous me dites, mais il faut rester dans ce système. Eh bien non, il ne faut pas rester dans ce système, il faut en sortir.
D'accord.
Et l'histoire, elle est ce que les hommes et les femmes font.
Elle n'est pas
de tolérer des situations inadmissibles.
Un prix unique, d'accord, mais avec quels critères? Semble-t-il, il y a plus de charges en France qu'en Allemagne ou en Espagne ou en Belgique, et c'est pour ça que les prix sont plus élevés pour permettre aux éleveurs français de vivre décemment. Alors, quels sont les critères? Est-ce que c'est une fois plus la France qui doit imposer ces critères de charges sociales, de contraintes environnementales, ou est-ce qu'il faut...
Ce sont des questions extrêmement complexes dont je ne suis pas spécialiste. Bon, ça s'est fait pendant... Ça s'est fait dans les premiers temps de l'Union européenne. Bon, il y avait les monsieur qui est agriculteur s'en souvient certainement, les montants compensatoires, etc. Bon,
avec Chirac qui était un spécialiste.
Non, mais c'est la dérégulation.
Ça servait toujours.
Je suis désolé, la régulation, elle a été faite à l'Europe. Hein.
Ce qu'on appelle la subvention.
Elle a été faite à l'Europe. Elle a été faite pour coller aux accords internationaux, alors du GATT anciennement et de l'OMC après. Et ça, c'est l'AMI. Et ça a tout été validé par le Parlement européen.
Ça, c'est ce que j'appelle la trahison des engagements initiaux de l'Europe. Monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Autre sujet, qui est aussi un sujet européen, celui des migrants. Puisque tous les pays européens, et notamment la France, l'Allemagne ou l'Italie, sont concernés par l'arrivée massive de ces migrants venus d'Afrique pour diverses raisons, souvent pour fuir la guerre ou des dictatures. Est-ce qu'il faut quand même les accueillir, en tout cas une part, ou au contraire leur dire à chaque migrant, retournez chez vous?
Je pense qu'il faut des points sur la côte africaine, dans le cadre du programme des Nations Unies sur les réfugiés. Je pense qu'il faut faire le blocus dans ce domaine des côtes libyennes. Il faut pas attendre que ces malheureux arrivent au milieu de la Méditerranée pour se noyer. Et je pense qu'il faut utiliser, pour les récupérer, des navires. Et puisque nous avons commis l'erreur de ne pas vendre les Mistral que je connais bien d'ailleurs, puisque j'ai été sur l'un d'eux, je suis officier de marine de réserve, eh bien, il faut garder ces navires qui sont tout à fait aptes à secourir, si on veut, des centaines de personnes à la fois. Moi, j'étais le premier à aller, quand j'étais président de groupe parlementaire, à aller à Lampedusa et à tirer la sonnette d'alarme. Marine Le Pen y est retournée quelques années plus tard. J'ai été à bord des patrouilleurs italiens. Il est évident que ces petits navires sont absolument pas adaptés à la situation.
Est-ce qu'il y a des terroristes de Daesh qui s'infiltrent parmi les migrants? C'est ce que croit savoir Christian Estrosi.
Je n'en sais rien, c'est possible. Mais en tout cas, indépendamment des terroristes, vous me dites par exemple, et là je vais certainement vous choquer, il y a des gens qui fuient la guerre. Bon, d'accord. Mais par exemple, on me dit qu'à Calais, il y a des Afghans. Bon, mais que je sache, on enrôle dans l'armée afghane aujourd'hui pour protéger le pays contre les talibans. Est-ce que vous trouvez normal que nous envoyions des jeunes Français, et j'en connais d'ailleurs, aller se faire tuer en Afghanistan, et que les jeunes Afghans viennent se mettre au chaud chez nous? Alors je pense qu'il faut, je pense qu'il faut, il faut les encadrer, et bon, il faut les instruire, il faut les exercer, et il faut les renvoyer combattre dans leur pays. Voilà.
Allez, le GG Twitter. Quelques noms de personnalités ou d'événements, et à vous de dire ce que vous en pensez en quelques mots. Si je vous dis Tel Aviv sur scène.
Oui, j'ai pas d'opinion particulière si c'est une relation avec une cité, mais il est évident que dans le contexte actuel des relations israélo-palestiniennes, ça prête à polémique.
Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, qui ne veut plus de menu sans porc dans ses cantines.
Ben, le problème, c'est que le menu sans porc pour quelques-uns, ça devient le menu sans porc pour tout le monde. Et ça, c'est un vrai problème, parce que par facilité, il y a beaucoup de cantines scolaires qui décident d'appliquer à tout le monde des interdits religieux, que personnellement je respecte, mais qui n'ont pas à être étendus à ceux qui ne les partagent pas.
François
et qui sont encore, jusqu'à preuve du contraire, majoritaires dans ce pays.
François Rebsamen.
Bah, écoutez, je m'inquiète pour la situation de l'emploi à Dijon, s'il a les mêmes résultats qu'au ministère du Travail.
Là, on peut rien dire.
Autre nom.
Même quand on n'aime pas Golnisch, là, on est obligé de dire.
Elle est bonne. Nicolas Sarkozy, qui voudrait récupérer les électeurs du Front National, il le dit très clairement dans ce journal Valeurs Actuelles.
Oui, ça a toujours été sa tactique. Ça avait marché. Ça lui avait permis d'être élu président de la République. Ça a moins marché quand il s'est représenté, parce que les gens avaient quand même s'étaient souvenus que
ça pourrait marcher en 2017.
Jean-Marie Le Pen, ça risque de marcher.
Mais oui,
il fait l'éloge des qualités de manœuvrier de Sarkozy.
Il y a risque parce que, comme a dit un grand chef militaire que je ne citerai pas, les Français ont la mémoire courte. Alors, il est certain que si le Front National présente le spectacle de ses déchirements et que Sarkozy lui resserre les boulons dans sa formation, il y a un risque, et c'est parce que je veux éviter ce risque à Marine Le Pen que je m'efforce de prôner la réconciliation au front.
Merci Bruno Golnisch. Il passait le grand oral des GG.
Est-ce que j'ai la moyenne?
Ça, c'est ceux qui vous écoutent, les auditeurs, qui en jugeront. Merci en tout cas d'être venus dans le studio des Grandes Gueules.
RMC, Olivier Truchot, les Grandes Gueules.
Avec aujourd'hui, depuis 10h ce matin, Étienne Liebig, Jacques Maillot et notre agriculteur Didier Giraud. Les GG, vous.
Allô?
Allô, oui?
Non, rien. Allez, ça c'est fait.
Tu nous dis que tu regrettes, autrement je vais te le faire regretter.
Allez, c'est à vous maintenant, vous avez la parole au 3216, Malik est avec nous, bonjour Malik.
Bonjour.
Responsable de rayon dans le Val-de-Marne, et vous vouliez interpeller Étienne Liebig, c'est ça?
Oui, c'est ça, j'aimerais t'interpeller Étienne sur tes propos sur la circoncision, que tu aurais fait une corrélation entre la circoncision et le porc dans les cantines. Donc je comprends pas vraiment ce que tu veux dire par là. Alors moi je suis d'origine algérienne, je suis circoncis, je ne suis pas du tout musulman, je mange du porc. Et je comprends pas ce que tu veux.
Alors je t'explique. C'était une espèce de provocation volontaire parce que j'avais en face de moi donc des gens, une personne en particulier, qui disait nous n'avons pas à suivre les préceptes religieux. C'est la laïcité systématique. Donc j'ai été sur le côté de la circoncision qui est accepté absolument par tout le monde, que ce soit chez les juifs ou les musulmans, comme un concept de base. Aujourd'hui, personne va dire que la circoncision c'est quelque chose qui n'est pas normal pour chacun. Et je l'ai fait exprès pour montrer à quel point si on était laïque de façon dogmatique à 100%, à ce moment-là, il fallait tout refuser, y compris cette mutilation sexuelle. C'était pour imager. Je sais bien que c'est pas demain la veille qu'on remettrait en cause ce genre
La circoncision n'est pas uniquement religieuse. Tu vois, aux États-Unis, la majeure partie des
Américains... Excuse-moi, Le commandement dans la Bible, le commandement est très clair. On demande, Dieu demande très clairement aux Juifs de circoncire les bébés, de circoncire chaque homme au sein de la maison, y compris les esclaves qui seraient égyptiens ou d'une origine différente, y compris les Noirs qui sont au sein de la maison esclaves chez les Juifs à l'époque. Et évidemment, c'est un précepte biblique qui sera remis en cause par les chrétiens. Mais voilà, tu peux pas dire que c'est pour la santé.
Non mais si tu veux on va revenir sur le sujet de base qui est effectivement le port à l'école. Moi j'ai ma femme qui bosse dans une assoce qui s'occupe d'enfants avec des troubles du comportement. Une grande partie est soit musulman soit juif et ils ont décidé de bannir complètement le port pour éviter les problèmes. Ouais. Donc là je ne comprends pas, c'est-à-dire que ces enfants qui ont déjà très peu de repères, en plus on leur met pas de fait accompli en disant voilà, il y a une personne qui mange du porc.
Parce que c'est la solution de facilité. C'est la solution de facilité. On se dit c'est plus simple, on va faire sans porc.
Elle s'est fait insulter parce qu'elle avait du jambon.
Je suis d'accord avec toi. C'est absurde.
Donc au bout d'un moment le concept est absurde. Après même pour énerver un petit peu l'opinion publique, je suis désolé, mais le mettre en parallèle avec la circoncision, c'est quelque chose à terme entre guillemets, c'est que personne ne la voit. On n'est pas obligé de savoir effectivement qu'elle soit circoncis ou pas, qu'elle soit religieuse ou pas religieuse.
Ouais, circoncision. Ouais, justement, si tu veux, quand je pense le cinéma qu'on nous fait sur un voile pour un petit bout de tissu qui est aussi un commandement biblique d'ailleurs, de voiler les femmes, de voiler les cheveux des femmes ou de les tondre, c'est aussi un commandement biblique. Quand je vois le cinéma qu'on nous fait, moi je pourrais dire en retour, vous trouvez pas qu'un petit bout de voile c'est beaucoup moins important qu'une mutilation sexuelle? Enfin moi je trouve que si on devait être objectif par rapport à ça, je trouverais que
la mutilation... Pour toi la circoncision c'est une mutilation.
Non mais je le fais exprès,
c'est une mutilation.
Évidemment que c'est une mutilation sexuelle obligatoire qui est faite sur des bébés qui n'ont pas le droit de dire non.
Oui,
excuse-moi.
Et qui ont mal.
Je vais te dire que ceux qui ont eu un problème sexuel et qui ont dû se faire oui, mais au bout d'un moment, oui, mais c'est notre raison.
Non, mais attendez, Malik, vous pouvez pas comparer
les concepts,
quand c'est des raisons médicales.
On prend les concepts d'il y a 2000 ans, alors que effectivement, ces concepts-là n'ont plus vraiment cours parce que il n'y a pas que la religion qui fait circoncire. Donc, je comprends ton point de vue sur le côté historique, mais au bout d'un moment, il y a quand même une.
La question, Malik, est de savoir est-ce qu'on peut se détacher un jour ou l'autre de préceptes
religieux qui ont été établis qu'on 5000 ans, quoi.
Il y a des millénaires qui étaient d'ailleurs souvent ce sont des préceptes souvent sanitaires, parce que c'était pour des raisons souvent de santé, mais qui n'ont plus tellement cours aujourd'hui. Je veux dire sincèrement, les enfants qui sont pas circoncis quand ils sont enfants sont des adultes qui vivent bien et qui ne risquent pas d'attraper forcément des maladies. Vous voyez, est-ce qu'on peut dépasser ces pratiques qui pour certains semblent d'un autre temps,
ça me paraît pas
mais du coup on a changé de sujet et c'est dommage parce que
c'était simple le sujet d'Étienne.
Ouais mais le problème justement du porc n'aurait pas dû la proposition n'aurait pas dû rentrer dans ce sujet là
mais
que,
si c'est
coup,
pareil le porc Étienne l'a très bien rappelé pourquoi on interdisait de manger du porc parce qu'on pensait que le porc pouvait être aussi un animal carnivore, voilà, et c'était interdit aux chrétiens. Mais enfin là on remonte à
on remonte trop loin pour pouvoir mettre ça comme argument, quoi.
Merci Malik d'avoir appelé au 32-16 et on terminera avec Mickaël qui est avec nous en Seine-et-Marne, chef d'entreprise et qui voulait revenir et qui va te concerner directement Didier sur les prix imposés aux industriels concernant le porc. Bonjour Mickaël.
Bonjour à tous.
Ça vous choque qu'on impose des prix?
Oui, moi je suis pas d'accord avec Didier. Oui, ça me choque qu'on impose des prix. On est dans un libre marché. On est l'Europe, on crie l'Europe toute la journée. On met des drapeaux de l'Europe partout. Libre circulation des marchandises. Et puis même, en tant que chef d'entreprise, moi-même qui suis chef d'entreprise, je me vois pas pourquoi on m'imposerait d'acheter plus cher alors que je peux avoir moins cher. Et je pense que même Didier, en tant qu'agriculteur, il serait pas content si on lui dit ton fuel pour faire fonctionner ton tracteur, tu dois l'acheter plus cher.
C'est le cas aujourd'hui. Mon fuel pour faire fonctionner mon tracteur, c'est pas le même que qu'ils mettent dans les camions, c'est pas le même que vous avez vous, c'est pas même que le fuel rouge qu'on met dans les chaudières. Bah il est entre les deux, mais il est plus cher que le fuel rouge qu'on avait il y a 10 ans.
Ah oui, d'accord, mais il est moins cher que le fuel bleu que j'utilise moi.
Oui, mais ce que je veux dire c'est que
aujourd'hui,
c'est Mickaël qui pose l'exemple, moi je réponds à l'exemple. Moi ce que je veux dire à Mickaël, est-ce que vous concevez aussi que l'alimentation c'est pas une matière, enfin, c'est pas un bien industriel le même que les autres.
Je suis chef d'entreprise dans l'alimentation.
Et vous faites quoi?
Je vais donner un exemple. Je suis franchisé d'une grande centaine dans le sushi.
D'accord.
Je vais donner un exemple. Mon thon, l'année dernière, j'ai acheté 16€ le kilo. Cette année, je l'achète à 24€ le kilo.
Ah
vous croyez que si je peux acheter moins cher, je peux pas acheter moins cher? Je vais pas aller acheter moins cher? Parce que pourquoi c'est qui trinque? Moi, le prix, je l'impose pas au consommateur.
Et pourquoi ça augmente le prix du thon? Parce que il y en a
Il y en a de plus en plus, il y a de moins en moins.
Ouais, voilà. C'est ça, il y a la demande.
Non, c'est la demande.
La demande est.
Non, mais
trop
enfin, on peut pas mais transposer
problème,
ces choses-là.
C'est tout un jeu d'offres et de la demande.
Mais on peut pas tout justifier par ça, Michael. Moi, aujourd'hui, ça fait 18 mois que je produis en dessous de mon coût de production. Comment je fais concrètement? Je vais faire un chômeur de plus? C'est ça que vous me dites, Michael? Il faut que j'aille faire un chômeur de plus?
N'écris pas, Didier.
C'est à cause de qui? C'est à cause de qui?
Mais je m'en fous, c'est à cause de qui? La situation, elle est comme ça aujourd'hui. La situation, elle est que je vends de la viande.
Pourquoi t'es comme ça? La situation.
Non, mais ça, c'est pas le problème. Non, c'est pas mon problème.
Bah, si. Si ton coût de production est trop élevé.
C'est mon problème. Comme je paye mes charges et que je vois que sur 1 million d'euros d'hors taxe de chiffre d'affaires et qu'à la fin de l'année, il va à peine me rester ne serait-ce que 3% de tout ce que j'ai produit et qu'il y a 40% qui sont partis en charge, c'est-à-dire, on va parler concret, il y a 400 000 euros de ma richesse parce que je travaille 7 jours sur 7 et tous les jours d'année, il y a 400 000 euros qui partent à les charges. Même si j'embauchais 2 salariés ne serait-ce qu'au SMIC, parce que, on va dire, sur au niveau des charges, ça me ferait 24 000 euros. Mais 400 000 euros, bien sûr, je prendrais 2-3 salariés en plus. Mais non, je peux pas, ça part à l'État. Je vais donner un exemple. Touche mon front, ça a bien marché. Alors d'aujourd'hui, j'ai racheté les parts de mon associé. Coucou, le trésor public, on vous prend 12 000 euros. Pourquoi? Parce que j'ai réussi. Donc je dois les donner.
Non, mais vous êtes dans une activité où il y a de la marge, Michael.
De quoi?
Vous êtes dans une activité où il y a de la marge, quand même.
Il reste pas beaucoup.
Non, mais moi, je vous parle de produits en dessous de ses coûts de production.
965 000 euros de chiffre d'affaires, résultat net, plus 15 000 euros. On n'est même pas à 10%.
Non, mais c'est formidable. Mais moi, 15 000 euros de revenus, je signe demain matin, Michael.
De quoi? De résultat net, ça fait 1000 euros par mois.
Eh ben moi, je signe demain matin. Parce que j'en suis pas là, mon cher. Hein.
Oui, mais ce que dit Michael, c'est qu'il faut essayer de comprendre pourquoi.
Non, mais j'ai compris.
Tu t'en sors pas.
Mais c'est bon, les causes de la crise, on les connaît. C'est la concurrence européenne. C'est la concurrence européenne, dit déloyale, mais enfin, c'est le fait que certains sont compétitifs.
Mais la concurrence,
mais tu peux pas appeler ça de la concurrence, Jacques.
Mais si.
Quand des mecs font le même travail à 4,50€ ou à 20€, que tu sois d'un côté ou de l'autre de la frontière, tu peux pas appeler ça de la concurrence. Quand t'es obligé de payer un mec pour désosser de la viande 20€ et que de l'autre côté de la frontière allemande, le même travail c'est 4,50€, tu peux pas appeler ça de la concurrence.
Bah si, c'est la concurrence. Comment ça se fait que les Belges et les Hollandais qui ont des rémunérations supérieures aux nôtres?
Ben, y a pas les mêmes charges derrière la
concurrence. Ah, bon, voilà.
Donc il n'y a pas les mêmes charges. Ils ont des rémunérations, mais les charges patronales, elles y sont pas.
Ce problème des charges, ça fait des années qu'on en parle. Il faut le régler, ce problème des charges.
Ben, sauf que moi, je suis désolé. Aujourd'hui,
et les normes
tant
aussi.
Que ce problème
n'est
pas réglé, t'as besoin que l'État intervienne dans la fixation des prix.
Eh ben ça marche pas non plus, puisque ces prix visiblement sont pas les bons. Merci en tout cas, Michael, d'avoir appelé au 3216. Et j'ai une bonne nouvelle. Stéphane Le Foll vient d'annoncer une table ronde fin août pour faire des propositions.
Il faut qu'il finisse ses vacances tranquillement.
C'est une bonne nouvelle pour les tables rondes. Et moi qui représente ici les tables rondes, ça faisait très longtemps que nous n'avions pas été mis au cœur de la politique. Nous sommes des chevaliers de la table ronde.
Absolument. Et après, il y aura une commission.
Oui.
Quel monde incompétent.
Dans un instant, Pascal Perry, retour des Grandes Gueules, demain 10h.
RMC, les Grandes Gueules s'écoutent aussi en podcast et sur rmc.fr.